Chapitre 22. Les soldats de la terre. Aussitôt qu'Erwan Aldaman eut annoncé qu'on allait lever le camp, l'enthousiasme gagna les rangs de l'armée tout entière. Les soldats avaient vu le Samil Danak marcher la veille avec Mjol Nabak et le grand druide, et tous avaient compris que les choses allaient enfin changer. Aléa était rétablie, et elle semblait vouloir se remettre en route. On démonta tables et cabanes dans la hâte, on prépara sacs, armes, vivres, et quand tout fut enfin prêt, il fallut attendre les ordres. Au début de l'après-midi, alors que l'impatience commençait à gagner les nombreux soldats, Aléa et Erwan se présentèrent enfin à cheval au milieu de la clairière, au cœur de leur petite armée. Il n'était guère plus de 100, la plupart avaient péri, quelques-uns s'étaient perdus dans la déroute. D'autres, sans doute, avaient fui. Mais il y avait dans le regard de ceux qui étaient encore là une fierté à laquelle Aléa avait encore peine à s'habituer. Dressée sur son cheval, la jeune fille prit la parole, parlant aussi fort qu'elle pouvait, mais d'une voix qu'elle espérait suffisamment douce.
« Je voudrais d'abord vous remercier, tous, et vous demander pardon. Chacun de nous a perdu un être cher. Vous, moi, mes amis. Cela, nous ne devrons jamais l'oublier. Ce n'est pas pour mourir que nous devons nous battre, mais pour vivre. Je sais que vous attendez depuis longtemps que nous nous remettions en marche. Vous avez patienté. Aujourd'hui, le temps est venu. D'abord, nous irons au pied des montagnes de Gordraka, où nous attendent d'autres guerriers pleins de bravoure. Tais-toi, Tan. »
Il y eut un silence gêné dans la foule. Le choix d'Aléa en mettait plus d'un mal à l'aise. Tout le monde ne semblait pas encore prêt à s'unir à ceux que l'on prenait encore pour des barbares monstrueux. La jeune fille s'y était attendue.
« Mon frère, Tagor, est parmi eux. Mais au-delà de ce frère, tous les Tuatan sont notre famille, notre sang, le sang de cette terre. Ils sont les premiers enfants de la Gaelia, et si nous aimons cette île, alors nous ferons d'eux nos frères. Ensuite, nous marcherons vers Lassar, et en chemin nous essayerons d'emmener avec nous d'autres soldats, encore, dans chaque village, chaque campagne, comme le fit Galiad. Nous devrons convaincre les gens de nous suivre. Parce que, mes amis, nous devons encore renforcer notre armée. Mais j'en fais le serment. Cette armée sera une armée de paix. »
Quelques murmures d'approbation s'élevèrent finalement au milieu des rangs de soldats.
« Je ne veux pas vous mentir, » reprit Aléa. « Vous vous en doutez, il y aura sans doute encore des conflits. Des morts sans doute, dans nos rangs et dans ceux de nos ennemis. Mais je vous fais une promesse, une seule promesse. Je ne me reposerai pas tant que la paix ne sera pas revenue dans l'île. »
Et cette fois-ci, ce furent des acclamations et qui durèrent longtemps. Certains criaient son nom, d'autres celui du Samil Danak. Aléa leva la main. Le silence se fit aussitôt.
« Je ne veux plus que vous m'appeliez Samil Danak. Vous n'êtes pas l'armée du Samil Danak. Je suis Aléa, fille de Félim et de la Terre, et dorénavant, cette armée sera celle de la Terre. Vous êtes les soldats de la Terre.
« En marche !»
enchaîna Erwan sans attendre. Et tous les guerriers se mirent en mouvement, portés par la même émotion, par un espoir nouveau. La bannière d'Aléa se leva ici et là, au milieu des rangs des fantassins. On y voyait son symbole, deux mains couvrant une couronne et un cœur, brodés de rouge sur fond blanc. Le jeune Aldaman, avant de faire lui aussi avancer son cheval, lança un regard à celle qu'il aimait. Aléa savait déjà parler aux troupes comme un véritable chef de guerre. Sa maturité chaque jour plus forte ne cessait d'étonner ses compagnons. Et son charisme grandissait à mesure que le poids de son destin semblait obscurcir son front. Elle était grave et belle, et le jeune Magistel espérait qu'un jour, il pourrait lui dire son amour dans d'autres circonstances, sous d'autres perspectives, l'esprit libre et tranquille. Qu'ils pourraient vivre ensemble. Dans un monde plus sûr. Vivre, simplement, comme deux êtres qui s'aiment. Mais il fallait attendre, encore. Il se mit en route, bientôt rejoint par Caitlin et Mjolnir. Devant les soldats, leurs chevaux ouvraient la marche vers l'est. Aléa et Fingin, eux, se mirent en retrait. Depuis la veille, ils n'avaient cessé de parler ensemble, et la teneur de leurs propos avait même fini par lasser la curiosité pourtant grande du nain, qui était bien content de ne plus les entendre. Le cheval d'Aléa marchait juste à côté de celui du druide. Ils restèrent silencieux un moment, puis quand les soldats eurent pris assez d'avance pour qu'ils puissent parler sans être entendus, ils reprirent leur conversation. « Crois-tu, Fingin, que j'ai raison de mentir ainsi à ces hommes ?»«
Tu ne leur as pas menti ?» s'étonna le grand druide.
Aléa eut un petit rire nerveux.
« Je leur parle de paix, quand ce qui nous attend n'est autre qu'une longue guerre. Nous n'avons que des ennemis sur cette île. Je ne vois pas comment éviter des milliers de morts.
Je suis devenue menteuse au milieu des menteurs.
Mais c'est bien pour la paix que nous allons nous battre, » répliqua Fingin.
C'est toujours ce que disent les faiseurs de guerre, non? C'est toujours l'excuse qu'on invoque. Si l'on veut la paix, il va nous falloir passer par la guerre.
Le druide soupira. Puisque tu as eu le courage de leur dire toutefois qu'il y aurait des morts, c'est bien que tu sais qu'il n'y a pas d'autre choix.
Vraiment?
Si tu ne crois pas que la guerre, aussi horrible soit-elle, est le seul moyen pour amener enfin la paix sur cette île, alors pourquoi la leur avoir annoncée? Et pourquoi surtout vouloir grossir les rangs de ton armée?
Aléa haussa les épaules.
Pour gagner du temps, sans doute, expliqua-t-elle. Je ne dis pas que je connais une autre possibilité. Je dis que nous devons en trouver une.
Monter une armée suffisamment puissante pour que toutes les autres la craignent et qu'aucune n'ose entamer le conflit.
Battre l'ennemi par la menace.
J'y ai pensé. Mais cela ne durerait pas très longtemps. Il y aurait toujours quelqu'un pour monter une armée plus forte un jour prochain. Et cela ne résoudrait pas les problèmes. Cela nous permettrait seulement de les ignorer.
Fingin acquiesça. Il y eut un court instant de silence. Juste le bruit de leurs chevaux foulant la terre galacienne.
« Savons-nous vraiment qui sont nos ennemis ?» demanda finalement le druide.
« Quels sont nos combats ?»«
C'est amusant que tu soulèves cette question. » Je ne cesse de me la poser moi-même, comme si j'avais besoin de me la rappeler tous les jours.
Et alors?
Alors je vois deux combats que nous devons mener, répliqua Aléa. Le premier consistera à ramener la paix sur cette île, ou plus précisément, à amener une paix nouvelle. La paix qui régnait avant ne pourrait plus fonctionner. La guerre qui déchire la Gaëlia est une guerre de croyances et de territoire.
Cela me paraît juste. Répondit Fingin. La croyance des chrétiens a semé le chaos sur l'île.
Non, le coupa Aléa. Ce sont tous les responsables religieux qui ont amené le peuple dans la guerre, pas seulement les chrétiens.
Je ne crois ni en Dieu, ni en la Moïra, Fingin, mais je n'ai pas envie pour autant de me battre contre ceux qui croient en l'un ou en l'autre, et je suis sûre qu'il y a de la place pour les deux.
Tu ne crois pas en la Moïra ?
S'exclama le druide. Il dévisageait Aléa, les yeux écarquillés. Mais elle semblait sincère et sûre d'elle. Alors il se souvint de ce que Kiaran lui avait dit, le jour où il avait voyagé avec lui et Aod vers Providence pour mener une mission diplomatique au nom de Saïmina. Les mots exacts du grand druide, il s'en souvenait parfaitement, avaient été « Ce n'est pas la Moïra qui décide, ce sont les hommes ». Il se rappelait combien cette phrase l'avait choqué à l'époque, mais aussi combien elle l'avait fait réfléchir.
« Veux-tu que je te dise quel est le sens de la deuxième prophétie ?» demanda Aléa, plutôt que de répondre à la question de son ami.
« Cela a un rapport ?»«
Oui. Te souviens-tu que la première prophétie annonce que si je suis vraiment le Samil Danak, alors après moi, il n'y aura plus d'autre Samil Danak ?»«
Oui. » Et cette femme sera le dernier Samil Danak, quelque chose comme ça.
Eh bien, la deuxième prophétie dit en quelque sorte que si je comprends le sens de la Moïra, alors après moi, la Moïra ne sera plus.
Fingin secoua la tête d'un air hébété.
Je ne suis pas bien sûr de comprendre.
Aléa sourit.
Moi non plus. Pas tout à fait, en tout cas. Je t'ai dit qu'aucune des deux dernières prophéties ne s'était réalisée. C'est bien la preuve que je n'ai pas encore vraiment compris le sens de la Moïra. Mais ce n'est pas tout.
La troisième prophétie dit que si je comprends le sens du Saïman, alors après moi, le Saïman ne sera plus. Le druide resta silencieux. Il se demandait s'il devait être choqué, terrifié ou amusé. La jeune fille était-elle sérieuse ?
Fingin, reprit Aléa d'un ton solennel. Je serai la fin du Samil Danak, la fin de la Moira et la fin du Saïman.
Le druide poussa un soupir.
Si ces prophéties sont justes, rétorqua-t-il.
Je comprends qu'elles puissent t'inquiéter. Mais peut-être cela serait mieux ainsi. En tout cas, la première était incroyablement précise, n'est-ce pas ?
Il ne put qu'acquiescer.
Crois-tu que quelque chose de bon peut sortir de tout cela ? S'inquiéta Fingin en essayant de reprendre une voix normale.
Aléa haussa les épaules.
Nous verrons bien. Quand j'étais dans l'arbre de vie, Oberon, le roi des Sylves, m'a dit que si je parvenais à accomplir les trois prophéties, alors les Sylves ne seraient plus. Je pense que c'est parce qu'ils sont intimement liés à tout ça, au Saïman, à la Moira. Mais il m'a aussi dit que je pourrais les sauver. Cela me paraissait complètement étrange à l'époque, mais je crois que je commence à comprendre.
Tu as bien de la chance.
Quoi qu'il en soit, pour en revenir à notre combat, il y a bien une guerre de croyances sur cette île, oui, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi une guerre de territoire.
Les Tuatan veulent reprendre l'île.
Les Tuatan disent qu'elle leur appartenait. Et ils auraient sans doute raison si la terre pouvait vraiment appartenir à quelqu'un. Mais la terre n'appartient à personne, ce sont les hommes qui lui appartiennent.
Fingin sourit. J'ai l'impression d'entendre l'un de mes frères au conseil. Ce n'est pas avec de belles paroles comme celle-ci que tu pourras apporter une solution aux conflits territoriaux, Aléa.
Tu as sans doute raison, malheureusement. Mais il va bien falloir trouver un moyen de résoudre cette stupide histoire de propriété. La Gaëlia ne doit appartenir à personne et tout le monde doit pouvoir y vivre. C'est une évidence, non ?
Le druide opina du chef.
Tu disais que nous avions deux combats à mener, reprit-il. Le premier serait donc d'amener une paix nouvelle sur l'île, trouver une solution aux guerres de croyances et de territoire, comme tu dis. Mais quel est notre deuxième combat ?
La jeune fille se retourna vers lui. Elle hésita un moment, puis dans un soupir, elle murmura.
Maol Morda.
Fingin s'était bien sûr attendu à cette réponse. Comment l'oublier ? Mais il avait besoin de l'entendre, peut-être parce qu'il n'avait pas le courage de le dire lui-même.
« Et contre lui, que devrons-nous faire ? » demanda-t-il.
« Vaut rien. Moi, je... »
« Je vais devoir le détruire. »« Tu ne cherches pas de solution pacifique cette fois-ci ? » risqua le druide.
« Jusqu'au jour où mon couteau sera sous sa gorge, je chercherai une solution pacifique. » Mais si ce jour-là je n'en ai pas trouvé, je lui trancherai le cou comme il a fait trancher celui de mes proches.
Fingin, à cet instant précis, se souvint de ses longues conversations avec Mel, le frère de Caitlin. Il se souvint comment le cheminant l'avait plusieurs fois obligé à aller jusqu'au bout de ses raisonnements. Comment il lui avait prouvé à quel point être logique avec soi-même demandait du courage.
Aléa, se décida-t-il à dire, embarrassé. Pourquoi n'appliques-tu pas ta logique de paix à cet ennemi-là aussi ? Pourquoi ce conflit-là mérite-t-il que l'on tue, alors que tu voudrais résoudre les autres dans la paix ?
Le jour où je serai devant lui, Fingin, je ne serai plus le Samil Danak. Je ne serai plus le chef de cette armée, ni celle que le conseil recherchait, celle que le roi avait mise à prix. Je ne serai qu'une jeune fille de 14 ans dont on a tué le père.
C'est parce qu'on a tué leur père que la plupart des hommes font la guerre.
Si tu n'es pas capable d'appliquer à ton propre besoin de vengeance l'effort que tu attends des autres, si toi-même tu n'es pas capable de trouver envers ton pire ennemi une autre issue que le combat, alors ton message de paix n'aura aucune valeur. Tu voudrais que je puisse pardonner à l'homme qui a tué mes parents adoptifs, qui a tué mon père et mes plus proches amis ? Faïs avait fait le serment de venger la mort des deux aubergistes. Et maintenant, c'est elle qui a succombé aux mains du même bourreau. Et tu voudrais que je lui pardonne ?
Crois-tu qu'il sera plus facile aux Tuatan de nous pardonner à nous,
Gaéliens, qui les avons jadis chassés de leur terre en tuant leur père. » Pour la première fois, Aléa ne sut que répondre, et Fingin vit qu'une larme coulait sur sa joue. Non, elle n'avait pas encore de réponse.
« Tagor, nous venons.
Le monde de Jar est encore là. Toujours différent. Jamais le même décor. Je sais que mon frère m'entend. Il est sous ce pic, dans la montagne, à quelques pas de la porte des mondes. Là où notre mère a trouvé Félim. C'est cette porte qui nous unit. Et c'est elle que je vais devoir fermer.
Tagor, je crois que je comprends ce que notre mère a voulu faire.
Je sais que tu m'entends. Je sais que tu penses comme moi, que tu demandais à ton père de cesser les combats. C'est notre mère, n'est-ce pas, qui t'a offert cela, cette volonté que les guerres s'arrêtent. Oui, je crois que je comprends ce que notre mère a voulu faire. Un pont entre ton peuple et le mien. Mais il faudra choisir à présent, retourner en dessous ou accepter le dessus. Je n'ai pas le droit de me résigner. Je n'ai pas le droit d'abandonner, tu comprends, Tagor? Trop parmi les miens et les tiens sont morts pour que nous n'allions pas jusqu'au bout. Je suis le monde de demain, fille de tous les peuples, fille de la terre, fille des druides, fille des Tuatan et fille des humains. Attends-moi, Tagor. Ensemble, nous finirons le pont que notre mère a commencé. Un bruit, une présence. Peut-être Félim. Non, je ne crois pas qu'il puisse revenir. Et c'est mieux ainsi. Je ne veux plus le voir. Ne jamais associer son souvenir à celui de Dermot Kahl. Félim reste en mon cœur. Mais alors qui? Karan? Je reconnais ce pas, je me retourne. Il est là. Aujourd'hui encore, ici, comme hier et comme demain, il revêt ses habits de cheminant. Et sur son visage, ce sourire différent. Bonjour, Karan. Il ne m'espionne plus à présent. Il fait exprès de se faire entendre quand il arrive. Il s'annonce. De toute façon, il ne pourrait plus. Je l'entendrai chaque fois. Bonjour, Aléa. Je suis heureuse de vous voir, druide.
Moi aussi, bien que mon cœur soit blessé.
Que se passe-t-il?
Saïmina est tombée.
Déjà, je ne m'y attendais pas si vite. Et pourtant, c'est dans la logique des choses. D'abord Saïmina, ensuite le reste.
Par ma faute.
Ou grâce à moi. C'est une porte qui doit se fermer.
Enon et trois autres de nos frères sont partis, emmenant avec eux de nombreux jeunes druides. Le conseil est divisé.
Que dit Hernan?
Pauvre Hernan, je me demande si l'archidruide aura les épaules assez solides. Combien il doit regretter la mort d'Aileen et Félim. Je pense qu'il va vouloir te rejoindre, Aléa. Il va devoir convaincre les autres, mais je ne vois pas d'autre solution. En ce qui me concerne, mon choix est déjà fait. Notre place est auprès de toi, comme Félim l'avait dit.
Mais vous savez, druide, que si vous me rejoignez, il n'y aura pas de retour.
Il n'y en aura pas non plus si nous ne te rejoignons pas.
C'est vrai.
Sais-tu déjà, Aléa, quel Gaëlia tu peux nous offrir?
C'est bien l'unique question. Il pose la seule question qui mérite d'être posée.
Il doit savoir que je n'ai pas la réponse.
Je dois être sincère. Non. Je ne sais pas. Pas vraiment. Mais je sais qu'elle sera nouvelle et qu'elle devra être plus juste.
Faites de moi votre archidruide et je ferai de ce conseil le plus puissant de tous les conseils que votre ordre ait connu.
La reine Amine de Galassie avait reçu Enon dans le grand bureau luxueux du palais de Providence. Le grand druide s'était autoproclamé chef provisoire de ce nouvel ordre druidique. C'était lui qui avait organisé le départ de Saïmina. Et c'était lui qui avait préparé l'enlèvement du chêne centenaire que les jardiniers d'Amine replantaient en ce moment même en un lieu tenu secret
dans les parcs du palais. Enon avait donc fait le choix du schisme et le choix de ses futurs alliés. À présent, le moment de négocier avec la reine était venu. La capitale n'avait jamais été aussi active que depuis la mort d'Eogan. Amin semblait assoiffé de pouvoir, mais aussi de travail, et tous ses sujets n'avaient eu d'autre choix que de suivre le rythme qu'elle imposait. Elle lançait de nouveaux projets politiques, économiques, juridiques ou sociaux, envoyait en mission des conseillers de plus en plus nombreux, grossissait les rangs de l'armée, augmentait certaines taxes et en supprimait d'autres, instaurait de nouvelles lois. Toutes ces décisions qui étaient jadis prises par les druides et appliquées avec une lenteur légendaire par le roi étaient dorénavant les siennes, et elle entendait reprendre en main ce royaume endormi. Certains Galaciens commençaient même à apprécier la reine. Au moins, elle essaie de faire avancer les choses, disait-on çà et là, et l'on oubliait parfois comment elle était arrivée sur le trône. Car pour d'autres encore, elle restait une régicide illuminée, une meurtrière sans scrupules, qui n'agissait point pour le bien de l'île, mais par soif de pouvoir exclusivement. Et c'était sans doute cette avidité qui la poussait aujourd'hui à espérer prendre le titre d'archidruide.
Cela me paraît rigoureusement impossible, Majesté.
Et pourquoi donc ? S'offusqua la reine qui n'avait déjà plus l'habitude qu'on lui refuse quoi que ce fût. Enon savait que cette conversation serait la plus importante de toutes pour l'avenir des siens. Tout allait se jouer aujourd'hui. Sa place, celle de ses frères, le futur de l'ordre et peut-être même celui de la Gaëlia tout entière. Mais il savait aussi qu'il était en position de faiblesse. L'accueil que la reine lui avait réservé à Providence avait été sa seule chance de mener à bien son soulèvement. Elle était son seul espoir, après le schisme, de faire front à Saïmina. À ce qu'il en restait, tout du moins. Il lui était donc beaucoup plus redevable qu'il n'aurait souhaité l'être.
« Elle sait exactement pourquoi je ne peux me résoudre à la nommer archidruide. D'abord pour des raisons pratiques, mais aussi parce que je me réserve cette place. » Si je cède, je ne pourrai diriger le conseil, et qui sait où cette femme nous mènera? Je dois conserver ma place. C'est moi qui dois être le nouvel archidruide.
Parce que vous êtes une femme, Majesté, et que vous n'êtes pas druide, se contenta de répondre Enon. Si nous voulons reconstruire le conseil de façon crédible, nous devons être fidèles aux traditions de notre ordre. Rien ne nous empêche en revanche de vous faire une place lors de nos réunions, de vous y recevoir comme une invitée exceptionnelle.
Foutaise, s'exclama la reine. L'interdiction d'initier les femmes est une manipulation instaurée par les premiers druides, complètement contraire au sens de la Moïra.
Non, il y a bien une raison à cela. Aucune femme ne peut maîtriser le Saïman.
Aléa est la preuve du contraire. Rétorqua Amin.
Rien ne prouve qu'elle le maîtrise vraiment, risqua Enon.
Réservez ce genre de mensonges aux imbéciles. Et quand vous vous adressez à moi, druide, ayez la courtoisie de ne dire que des choses auxquelles vous-même pouvez croire. Vous savez très bien qu'elle est le Samil d'Anak et qu'elle maîtrise le Saïman bien mieux que vous. Enon ne sut que répondre. Il était médusé par l'agressivité et le dédain de cette femme pourtant si jeune. J'ai suivi l'enseignement des Vates. Je ne suis pas étrangère à votre ordre, Enon. Aussitôt que vous m'aurez nommé archidruide, vous aurez tout le loisir de m'apprendre à maîtriser le Saïman.
Amin, je sais que je vous suis redevable et nous trouverons un moyen de nous unir à vous qui vous soit favorable. Mais il est hors de question de nommer archidruide une personne qui ne maîtrise pas déjà notre pouvoir.
Elle gagne du terrain. Déjà en me focalisant sur le Saïman, j'ai cédé sans le vouloir sur l'interdiction d'initier une femme. Il faut que je reprenne le dessus. Mais je n'ai aucun point de force, aucun atout en main.
Je ne vous laisse aucun autre choix, menaça Amin, comme si elle avait entendu les pensées du druide.
« C'est pour votre bien que je m'y oppose, » répliqua Enon. « Vous ne pourriez diriger le conseil sans maîtriser le Saïman, et les grands druides refuseraient de se fier à une profane. »«
Je saurais les mater bien assez vite. Elle en serait bien capable, en effet. »«
Le peuple lui-même serait choqué par l'abandon de nos valeurs et de nos traditions. Vous ne pouvez être reine et druide à la fois.
Au contraire, ce que le peuple attend, c'est du changement. Et je suis la plus à même d'apporter ce changement. De nombreuses femmes seront enthousiastes à l'idée que l'ordre leur ouvre enfin ses portes. Il y a de nombreuses bardes qui feraient d'excellents druides.
Non, cela n'est pas possible. Cela romprait le point d'équilibre.
Il n'a jamais existé, votre point d'équilibre, justement parce que les femmes ont été exclues de votre ordre. Contrairement à ce que vous prétendez, ce sont elles qui pourront ramener l'équilibre au sein du Conseil. C'est l'arrivée des femmes qui renforcera le pouvoir des druides. Aujourd'hui, vous avez besoin de grandir, et vous ne pourrez le faire sans elles, et surtout sans moi. L'échec de Saïmina est la preuve formelle de l'inefficacité de votre structure.
Je dois trouver un argument irréfutable. Je ne peux la laisser nous englober dans sa soif de pouvoir. Aucun druide n'acceptera de vous livrer les secrets du Saïman.
Si les druides refusent de s'associer à moi, alors c'est vers les chrétiens que je devrais me tourner.
Nous ne refusons pas de nous associer à vous. Notre présence ici est bien la preuve que nous souhaitons vous rejoindre. Mais cela n'implique pas que nous changions les lois de l'ordre, simplement son siège.
Vous me nommerez archidruide, ou vous serez chassé de mes terres. Prenez garde, Enon. Il ne reste en Gaelia plus personne pour vous accueillir. Même Saïmina ne voudra plus de vous, après votre trahison. Le ton montait. Chaque réplique était de plus en plus rapide. Aucun des deux ne voulait perdre de terrain. Mais la reine était sans doute la meilleure à ce petit jeu. Elle l'avait plusieurs fois prouvé par le passé.
« Ne sous-estimez pas notre puissance !»
tenta Enon en se fabriquant un ton menaçant.
« Nous sommes en possession d'Ébanites !»«
N'oubliez pas la mienne. Je suis à la tête de la plus grande armée du pays.
Celle d'Harcourt et de Terre Brune vous écraserait.
Je pourrais m'allier à eux contre vous, contre tous les druides. » Pourquoi résistez-vous, Enon?
Parce que je crois en la sagesse de mon ordre, je crois en l'équilibre de nos lois, je crois au Saïman, et je sais qu'il est affaire d'homme. Ainsi l'a toujours voulu la Moïra.
Je crois, moi, que vous résistez parce que vous espérez prendre cette place. Vous voudriez être archidruide, n'est-ce pas? Enon ne répondit pas. Mais aujourd'hui, voilà votre choix. Soit en effet vous devenez archidruide, mais à la tête d'un conseil obscur, abandonné de tous, et que je rejetterai moi-même. Soit vous acceptez d'être mon conseiller, de me nommer archidruide, et ensemble, nous mènerons ce nouveau conseil à la tête d'une Gaelia beaucoup plus forte. Le grand druide poussa un long soupir. Le piège de la reine était parfait, imparable. Elle les avait amenés jusqu'à elle, et maintenant, ils ne pouvaient revenir en arrière. En vérité, la situation politique de l'île ne leur laissait d'autre choix que de céder à ses volontés, à n'importe laquelle de ses exigences. Mais il aurait voulu pouvoir résister un peu.
Je ne pourrai jamais faire accepter la chose par mes frères.
Amine comprit aussitôt qu'elle avait gagné. Nous n'avons pas besoin de leur accord. Ils se rallieront à nous, ou ils seront chassés.
Ce n'est pas une méthode très délicate. Vous risquez de ne pas susciter une grande adhésion.
C'est ma méthode, Enon, depuis le départ, et elle fonctionne. En matière politique, je n'ai jamais cru en la délicatesse. Enon acquiesça. Cela, la reine l'avait en effet prouvé depuis longtemps. Il n'y avait pas de louveteau dans la meute, et le clan se déplaçait tout entier, avec pour seul souci de se nourrir et protéger son territoire. Les loups partaient en chasse presque chaque jour, alignés derrière Taïbron, le dominant, dont la queue était fièrement dressée, comme un guide pour ses suivants. Ils pouvaient parcourir la vallée plusieurs heures, jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin l'un des rares troupeaux d'élans qui restaient là, malgré le danger.
Quand ils trouvaient un groupe d'animaux, les loups se mettaient à trotter tout autour, poursuivant, sans trop les presser, les élans qui prenaient la fuite. Gardant leur distance, ils se contentaient d'abord de courir dans le même sens que leur proie, sans attaquer, pour repérer celui du troupeau qui galopait le moins vite ou montrait le plus de faiblesse. Parfois, les loups ne trouvaient pas la proie la plus faible à temps, et le troupeau s'enfuyait sans que la meute pût satisfaire son appétit. En réalité, à cette période de l'année, les chasses n'étaient victorieuses qu'une ou deux fois sur six. Mais quand ils trouvaient un élan à leur goût, plus lent ou plus faible que les autres, soudain, ils partaient au galop et la traque commençait. C'était une course d'usure, la meute s'acharnant sur cette seule bête, les loups se relayant les uns les autres pour ne jamais perdre le rythme, ne jamais diminuer la pression. Et la plupart du temps, l'élan finissait par s'épuiser et perdre beaucoup de vitesse. Alors l'un des loups, Tamaran le plus souvent, parce qu'il était le plus véloce, sautait sur le train de sa proie et attrapait l'une de ses pattes arrière à pleine gueule. L'élan parvenait encore à faire quelques pas, essayant en vain de se débarrasser de ses mâchoires accrochées à sa cuisse, puis il tombait lourdement dans un nuage de poussière. Les six autres loups bondissaient aussitôt et achevaient l'animal en quelques coups de croc. Comme il n'y avait pas de petits à nourrir, la meute mangeait sa proie là où elle était tombée. Chaque adulte pouvait engloutir d'énormes quantités en un seul repas. Le museau plongé dans la chair ensanglantée de la charogne, ils arrachaient tour à tour la viande en poussant des grognements nerveux. Puis quand tous les loups avaient mangé à leur faim, ils partaient s'étendre dans l'herbe à quelques pas de là, suffisamment près toutefois pour garder un œil sur les restes. Car c'était pendant ces pauses endormies que les autres charognards, grands oiseaux sombres ou petits coyotes intrépides, venaient chercher leur part du butin. Imala était toujours la plus rapide à défendre les restes de viande sur le cadavre. Il lui suffisait souvent d'un grognement pour faire fuir les vautours, et parfois, elle chassait un coyote jusqu'en dehors du territoire de la meute, le rattrapant rarement, car l'estomac lourd, elle perdait vitesse et agilité. Parfois, les coyotes qui avaient la mauvaise idée de revenir finissaient une bonne fois pour toutes, sous les crocs meurtriers du clan. Petit à petit, les loups reprenaient leurs habitudes, tissaient les liens de la meute, consolidaient sa hiérarchie, retrouvant leurs codes et leurs instincts. Le clan prenait vie, et Imala oubliait déjà sa vie de louve solitaire et la silhouette lointaine des verticaux. En fin de journée, Aléa, ses compagnons et les soldats de la Terre, comme on les nommait maintenant, arrivèrent au pied de la montagne de Gordraka.
« C'est ici que la louve est venue nous trouver, mon père et moi », expliqua Erwan à Aléa, en désignant un peu plus haut le plateau qu'il reconnaissait sans peine.
Il y a sur l'un de ces grands rochers ton symbole, gravé dans la pierre.
Aléa acquiesça, et le jeune homme vit dans ses yeux qu'elle était impatiente d'aller voir la stèle. Mais d'abord, elle devait assumer son nouveau rôle. Elle se retourna vers la petite armée assemblée derrière eux.
Nous allons installer un campement ici et envoyer des éclaireurs dans la montagne pour y chercher mon frère.
Le magistèle hocha la tête et fit signe aux soldats d'exécuter ses ordres. Le soleil n'avait pas encore complètement disparu, et ses derniers rayons posaient au sommet des monts, sur le blanc de la neige éternelle, un doux voile rosé. Les soldats profitèrent des derniers instants de lumière et se dépêchèrent de monter le camp. C'était un geste qu'ils répétaient depuis plusieurs soirs et dont ils avaient pris l'habitude. Erwan Aldaman n'avait plus besoin de donner d'ordre, chacun savait ce qu'il avait à faire. Quand quatre éclaireurs se présentèrent devant Aléa, elle les remercia et leur donna ses instructions.
« Je veux que vous portiez ma bannière et que vous marchiez vers le haut de ces montagnes, vers ce pic en forme de bec de corbeau. Sous ce pic attendent des guerriers Tuatan. Leur chef s'appelle Tagor. C'est mon frère. Allez leur dire que Kailiana est ici, la fille de la terre, et que nous les attendons. Attention, il y a des coutumes que vous devrez respecter en vous adressant à eux. »
Elle regarda les quatre hommes. Ils l'écoutaient attentivement.
Quand vous verrez Tagor, vous devrez lui dire ces mots précis. Salut, Tagor, fils de Sarkhan, que la terre te reconnaisse, ainsi que ton clan. Ensuite, vous devrez vous montrer respectueux. N'oubliez jamais qu'il s'agit de mon frère, que ceux qui l'accompagnent sont des hommes d'honneur et qu'ils vénèrent la terre par-dessus tout.
Les éclaireurs acquiescèrent. Allez-y, dormez auprès d'eux et ne revenez que demain. En passant une nuit avec les Tuatanes, vous prouverez la confiance que vous avez en eux. Ils se mirent aussitôt en route, redoutant sans doute la tombée de la nuit. Aléa regarda les quatre silhouettes disparaître derrière les hauts rochers qui surplombaient le campement. Puis elle se tourna vers Erwan.
Tu as vu leurs yeux? Tu as vu leurs regards?
On dirait qu'ils boivent mes paroles.
Je pourrais dire n'importe quoi, ils le feraient.
Tu es leur chef, Aléa.
Et cela fait longtemps qu'ils n'ont pas eu un chef qu'ils puissent admirer autant.
Cela me fait peur. Erwan secoua la tête.
Cesse de te plaindre, Aléa, et apprends à apprécier la chance quand elle te sourit. Bien des généraux rêveraient d'une armée aussi fidèle.
Je ne rêve pas, moi, d'être général, rétorqua Aléa en souriant.
Tu as toujours réponse à tout, n'est-ce pas?
J'ai de qui tenir.
Erwan ne put s'empêcher de sourire. C'était la première fois qu'Aléa semblait se détendre un peu depuis bien longtemps. Il la prit par la main et l'entraîna vers le plateau qu'il lui avait montré plus tôt.
« Viens, je vais te montrer ce rocher. »
Elle se laissa faire, et ils s'écartèrent du camp sans prévenir leurs compagnons. Ils n'échangèrent pas une seule parole pendant tout le trajet, mais Erwan ne lâcha pas la main qu'il serrait fort dans sa paume. L'un et l'autre pouvaient sentir le sang qui pulsait dans leurs veines, comme deux tambours qui rythmaient en écho leurs inquiétudes et leurs espoirs communs. Le jour avait presque complètement disparu quand ils arrivèrent devant le grand roc noir qu'Erwan avait indiqué. Ils approchèrent en silence, presque solennellement, puis Aléa découvrit le symbole gravé dans la pierre.
C'est encore ton symbole.
Tu sais pourquoi il est là? Demanda Erwan en passant derrière elle pour l'enlacer.
Cela doit vouloir dire plusieurs choses. D'abord, je crois que cela signifie que nous sommes ici, à la porte des mondes. Ici, sans doute, tous les mondes communiquent. Notre monde, celui des morts, le monde de Jar et le Cid. Peut-être d'autres mondes encore. Cela doit vouloir dire aussi que c'est ici que mes parents se sont rencontrés, ici qu'ils se sont unis.
Erwan déposa un baiser sur sa nuque. Et enfin, puisque c'est le même symbole que sur ma bague, cela doit vouloir dire qu'il y a un rapport entre tout ça et le Samil d'Anak.
Mais sais-tu ce que signifie précisément le symbole sur ta bague?
Je n'en suis pas sûre. Mais si on le compare à ce qui est écrit dans l'encyclopédie d'Anali, je vois une première interprétation assez évidente.
Laquelle?
La pressa le jeune Magistel.
La couronne et le cœur. Le rôle du Samil d'Anak serait de concilier amour et pouvoir. Quelque chose comme ça.
Amour et pouvoir, hein? Aléa sourit. Elle se libéra des bras d'Erwan et fit quelques pas autour du roc.
Ce n'était plus qu'une ombre haute, un géant de pierre, pensa-t-elle.
Un frisson lui parcourut l'échine. Elle s'imaginait Félim rencontrant ici une femme venue du Cid. Sa mère. Quel visage avait-elle? Pourquoi était-elle sortie du monde d'en bas? Et qu'était-elle devenue quand elle avait dû fuir?
Aléa préféra ne pas se poser davantage de questions.
Viens, dit-elle en tendant la main à Erwan. Allons manger avec les autres. En bas, le campement était éclairé par les hautes flammes d'un grand feu qu'on avait allumé pour y faire cuire la viande et pour se réchauffer. Les langues jaunes dansaient dans la nuit noire et des flamèches s'envolaient tout autour dans la ronde du vent. On entendait déjà le son d'une cornemuse.
Mériande Mor-le-Bel, comte de Terrebrune et frère du défunt roi de Galassie, était aux côtés de Feren Alroeg, comte d'Harcourt. La voix de l'évêque Aeditus résonnait sous le dôme de la cathédrale de Rhia, comme il prononçait son sermon de sa voix grave et profonde. Le bâtiment était plein. Le peuple d'Harcourt, conforté soudain par la victoire de son comté sur les Tuatanes et les druides, s'unissait sous la croix du Christ, investi d'un espoir nouveau. On vivait des heures joyeuses dans la capitale chrétienne. Oubliée, la dureté du régime d'Alroeg. Oubliez les menaces des soldats de la flamme, les pressions et les conversions par la force. La fierté d'appartenir à un comté si puissant l'emportait à présent. Les gens semblaient choisir eux-mêmes d'atrophier leur mémoire. La Moïra n'était plus qu'un mauvais souvenir. Les druides, des fantômes abandonnés. Alroeg était enfin parvenu à rassembler les habitants du comté et chacun espérait qu'il les mènerait vers la victoire ultime. L'Arcour, jadis conspué par le reste de l'île, serait demain au centre du royaume. La lumière d'automne pénétrait à travers les grands vitraux colorés de la cathédrale et les colonnes de pierre grise se drapaient de reflets vifs, bleus ou violets. Les rayons de soleil s'engouffraient dans la longue nef jusqu'à l'autel où, sous le regard de l'assemblée, Aeditus louait la gloire de ce dieu qui leur avait donné la victoire. Une odeur d'encens flottait au milieu des allées, et l'écho de sa voix remplissait l'espace.
« Nous avons une importante carte à jouer !»
chuchota Alroeg en penchant la tête vers le comte de Terrebrune. Celui-ci acquiesça.
« La division du Conseil des druides sera notre seule chance de remporter la mise. Mais d'abord, il nous faut prendre le comté de Sarre. Le comte Albasruad n'est qu'un faible, il abdiquera devant le premier venu. C'est pourquoi nous devons attaquer la Sarre au plus vite, avant la galaxie. Nous devons être les premiers sur place. »
« Je n'en doute pas une seconde, » affirma Mériande. « Mais après, croyez-vous que nous serons assez forts pour battre définitivement la galaxie ? Et la Bisagne, ne risque-t-elle pas de rejoindre la reine ?»«
C'est en effet la Bisagne, la seule inconnue. » Il serait idiot de l'attaquer pour le moment, car elle est encore neutre et toujours dangereuse. Mais vous avez raison, il faudrait pouvoir s'assurer que le baron ne s'alliera pas à la reine.
La Bisagne a toujours été du côté de la galaxie.
Oui, mais la reine n'a plus la même légitimité. Elle pourrait être jugée pour le meurtre de son mari. Nous pourrions la renverser de façon légale en demandant qu'elle soit condamnée pour l'assassinat des Hogan.
Et user ensuite de la pression de nos trois fiefs pour vous placer sur le trône ?
Feren Alroeg ne put s'empêcher de sourire. L'idée d'arriver sur le trône de Gaelia sans avoir besoin de combattre la galaxie était en effet des plus séduisantes. Mais il savait que cela ne serait pas aussi facile.
« Nous verrons. Vous savez, Mériande, reprit-il plus bas, la plus grande force de mon comté. C'est la religion.
Comment cela ?
Regardez-les. Chaque habitant d'Arcour qui est converti devient un véritable soldat. On dit que la foi déplacerait des montagnes.
Où voulez-vous en venir ? Demanda Mériande, tout en regardant en contrebas les fidèles qui écoutaient l'évêque Aeditus.
Nous devons accélérer le processus de conversion de vos sujets en terre brune.
« La Moïra reste encore solidement ancrée dans les croyances de mon peuple, » répondit le comte mort.
« C'est pour cela qu'il faut avancer la date officielle de votre conversion. Quand vos sujets auront assisté à la cérémonie, ils n'auront de cesse que de vous imiter. Vous êtes redevenu leur héros, là-bas, en chassant les Tuatan hors de votre comté. »
« Certes, mais on n'efface pas si facilement toutes ces années d'endoctrinement par les druides. »
« Peut-être. » Mais nous devons nous servir de la chute du Conseil pour décrédibiliser Saïmina. Nous devons aller plus loin même. Interdire aux druides l'accès sur nos terres respectives, proscrire la célébration de leurs fêtes, remplacer leurs coutumes et leurs rites par des rites chrétiens.
Cela ne se fera pas en quelques jours, tempéra Mériande Mort.
Cela se fera beaucoup plus vite que vous ne pouvez l'imaginer. Demain. « Vous retournerez en terre brune et vous annoncerez votre conversion pour la semaine prochaine. Je demanderai à Aeditus de célébrer cela chez vous, puis de prendre en charge le grand mouvement chrétien que nous devons lancer sur vos terres. »
Mériande le Bel acquiesça. Il savait de toute façon qu'il n'avait pas le choix. Il n'était plus aujourd'hui qu'un vassal de l'Arcour. Ce n'était pas vraiment ce dont il avait rêvé jadis, mais c'était toujours mieux que d'être envahi par les barbares du Cid. Il ne lui restait plus qu'à en convaincre les Brunois.
Quand il entra dans la salle du trône, au tréfonds du palais de Shanka, Almar Cain ne put s'empêcher de penser au passé.
les années de vigilance à Saratea. Les années silencieuses où il n'était qu'un veilleur secret pour le maître. Seul contre tous dans un village d'imbéciles. Cachant son véritable destin en acceptant pour façade le métier de boucher, parce qu'il n'aurait pu révéler le nom de celui qu'il servait vraiment. Comme tous les veilleurs de Sar, Almar n'avait jamais avoué aux autres sa soumission à Maul Morda. Ce maître-là, on le vénérait en secret. Et puis il y avait eu cet enfant, Aléa, mystérieuse, et Félim qui était venu l'espionner plusieurs fois. Cela, même les autres habitants de Saratea l'ignoraient. Mais lui, il savait. Il avait vu Félim, ces nombreuses nuits, venant revoir l'enfant qui était arrivé au village sans que personne ne puisse dire d'où elle venait. Almar avait découvert tout cela, et en le révélant au maître, il s'était sans doute ouvert les portes d'un avenir meilleur. Depuis le début de l'Ansin, le boucher avait attendu cet instant. Il avait espéré que Maul Morda lui donne enfin une chance de s'illustrer, une chance de s'élever dans la hiérarchie de ses serviteurs. Car Almar rêvait de revanche. Une revanche sur son destin, une revanche sur son village, et par-dessus tout, une revanche sur cette petite peste d'Aléa. Il avança lentement vers le trône, les yeux baissés. À peine eut-il franchi la porte qu'il fut saisi par l'odeur étrange qui régnait ici. Une odeur animale, humide, qui se mariait parfaitement à la chaleur moite de l'atmosphère. Et il y avait quelque chose d'excitant dans cette saveur étrange, comme une puissance profonde, surnaturelle, comme une présence divine.
« On dit que tu connais la jeune fille. »
La voix de Maul Morda était plus étrange encore que l'atmosphère de la pièce. Il n'y avait plus rien d'humain dans son timbre, dans sa résonance. On aurait dit que plusieurs voix s'y mêlaient et se déformaient dans l'écho de sa gorge. Almar posa un genou par terre. Il tremblait.
« Oui, maître, j'ai vécu plusieurs années dans son village. Je l'ai vu grandir, et j'étais là la première fois que son pouvoir s'est révélé. »
Derrière lui, dans son dos, Almar pouvait sentir la présence d'Ultan, le bras droit de Maul Morda, qui était venu le chercher tout à l'heure pour lui annoncer que le maître désirait lui parler. Il devinait son regard, sa gravité. Il voyait même l'ombre allongée de son corps imposant juste à côté de lui, sur la surface grise des pierres.
« Parfait. Tu vas peut-être nous être utile, Almar Cain, »
reprit Maul Morda, du haut de son trône d'ossement. Le boucher acquiesça lentement. L'heure de sa revanche était donc bien venue. Il arrivait à peine à y croire. Comment lui, si modeste, si insignifiant dans la grande organisation de Maul Morda, pourrait-il se rendre vraiment utile? Il espérait seulement qu'il ne le décevrait pas.
« On dit qu'Amine de Galassie, la reine, était aussi dans ce village et que toutes deux étaient amies. »«
C'est exact, » répondit le boucher d'une voix tremblotante. Amine Salia, je m'en souviens très bien.
C'est étrange, n'est-ce pas? Comme le monde est bien fait,
ironisa Maul Morda.
J'ai une mission à te confier, Almar Cain.
Je suis à votre service, maître.
Almar ne parvenait pas à parler tout haut. La gorge nouée, il avait la voix tremblotante et le regard fuyant.
Tu vas aller à Providence. Et tu vas entrer en contact avec la reine.
Je... Oh, oui, mais comment le pourrais-je?
Balbutia Almar, incrédule. Il regretta aussitôt de s'être montré dubitatif. Il espérait que Maul Morda ne lui en tiendrait pas rigueur. Comment pouvait-il oser douter du maître? Mais le porteur de la flamme des ténèbres se mit à rire.
« Ne t'inquiète pas, boucher, je peux te donner bien plus de pouvoir que tu ne pourrais en rêver. Tu auras la Rimane avec toi. Et la reine te connaît déjà. Cela devrait te faciliter la tâche. »
Almar essaya de reprendre une respiration normale.
« Et que devrais-je faire quand je l'aurai contacté ? »
bredouilla-t-il.
« Tu lui diras qu'Aléa a tué son père. »
Le forgeron?
Oui,
C'est Aléa qui l'a tué ?
Maol Morda poussa un soupir strident.
Cela n'a aucune importance, Boucher. Ce qui compte, c'est que la reine le croit.
Je comprends,
s'empressa-t-il de répondre.
Alors tu comprends ta mission.
Alma hocha la tête sans ajouter un mot. Il était terrifié et heureux à la fois. La revanche allait donc être possible. Et soudain, alors qu'il s'apprêtait à partir, il sentit une vague brûlante lui traverser le corps. L'Ahriman. Cette force chaude qui remontait dans ses veines, qui les gonflait presque à les faire craquer. Son cerveau, comme éclairé d'un seul coup de 1000 nouveaux feux. Le monde autour devenait plus aigu. Chaque bruit, chaque odeur, chaque couleur. Almar resta un long moment immobile, perplexe. Il n'arrivait pas à apprivoiser cette force nouvelle dans son corps. Puis enfin il se releva. Il n'était plus tout à fait le même. Le doute dans son esprit avait disparu. La peur aussi. Seule restait la haine, la vengeance. Il leva les yeux vers le maître. Pour la première fois, il put découvrir son visage. Le visage de Maol Morda. Un homme noir cachait le haut de son crâne, mais l'on pouvait voir ses yeux rougis de sang derrière deux larges fentes, et l'on devinait par endroits la chair vive de sa peau. Il le vit, et il ne trembla pas. Il était prêt, maintenant. Il restait auprès de Tagor bien plus de Tuatan qu'Aléa ne l'avait espéré. Leur entrée dans le campement des soldats de la Terre fut comme une cérémonie émouvante, un moment précieux, que nul n'oublierait. Aléa et ses compagnons se tenaient debout devant la grande tente qu'on n'avait pas encore démontée. Les soldats, soudain, s'étaient tus. Éparpillés à travers le camp, les uns finissant de manger, les autres préparant déjà le départ, tous s'immobilisèrent quand apparut derrière les rocs noirs la longue colonne de Tuatan. Plus nombreux encore que les soldats de la Terre, c'étaient près de 300 hommes et femmes qui approchaient en silence, effleurant à peine le sol rocailleux de leurs pieds nus. Une rangée de lances, dressées sans ordre apparent, qui glissaient sur la montagne. Les regards se croisèrent, les deux armées se découvrant l'une l'autre, et aucune parole ne fut prononcée. D'un côté comme de l'autre, respect et méfiance se mêlaient dans un silence pesant. Il régnait dans l'air une tension palpable, à la fois soulagement de trouver de nouveaux alliés et peur de l'inconnu. En tête de file, les quatre éclaireurs qu'Aléa avait envoyés accompagnaient le jeune Tuatan au charisme étonnant. Muscles saillants, torse couvert de peinture guerrière, et sur son crâne, une longue crête de cheveux bleus nouée derrière la nuque par un tissu de cuir et des plumes d'aigle. Quand il fut assez près, on découvrit ses yeux. L'un bleu et l'autre noir, et sur son visage, la dignité d'un chef de clan.
« Mon frère !»
chuchota Aléa en regardant le cortège qui avançait vers elle. Elle sourit. Les Tuatan s'arrêtèrent à quelques pas. Il avait suffi d'un geste de Tagor pour que la longue file s'immobilise en un instant.
« Je te salue, Tagor, mon frère, fils de Sarkhan. » Que la terre vous reconnaisse, toi et tous les clans.
Le jeune guerrier s'avança et prit la main d'Aléa dans la sienne.
Bonjour, petite sœur, dit-il simplement. Puis il l'embrassa et la serra contre lui.
Aléa sentit les larmes monter à ses yeux.
Un frère, un véritable frère. Elle pouvait le sentir dans sa voix, dans ses gestes. C'était comme si elle l'avait toujours connu. Sa seule famille.
Les tiens parlent-ils la langue de la Gaëlia à présent ? Chuchota Aléa à l'oreille de son frère.
Oui, nous avons appris, comme nous avons appris à mesurer le temps également.
Ils restèrent enlacés un long moment, comme pour rattraper des années d'absence. Puis Tagor relâcha son étreinte, fit un pas en arrière et se baissa, posant un genou au sol.
Voici tout ce qui reste des gens du Cid, Aléa. Les clans sont brisés, les chefs sont morts. Nous sommes les derniers Tuatan. C'est bien peu, mais cette armée est la tienne.
Je vois des femmes et des enfants, répliqua Aléa. Ce n'est pas une armée, Tagor. C'est un peuple tout entier. Et cette terre saura vous recevoir.
Elle nous appartient !
S'exclama un guerrier parmi les Tuatanes. Tagor se retourna pour voir lequel de ses frères avait ainsi parlé. Aléa vit la colère dans ses yeux. Elle posa une main sur son épaule d'un geste apaisant. Puis elle s'adressa à la foule.
La terre n'appartient à personne, Tuatane. Ni à vous, ni à vos ancêtres, ni aux Gaéliens ou à leurs descendants. C'est parce que vos anciens croyaient le contraire qu'ils sont morts. C'est quand la terre devient propriété que les guerres éclatent. N'avez-vous donc rien appris? Regardez combien vous êtes aujourd'hui. Regardez combien nous sommes. Combien encore devront mourir pour qu'enfin nous retenions la leçon? La terre n'appartient à aucun homme. Ce sont les hommes qui lui appartiennent.
Elle se redressa, et un voile sombre sembla se poser sur son visage.
Que ceux ici qui pensent encore que cette terre leur appartient quittent aussitôt ce camp, car je ne tolérerai pas cette pensée parmi les miens. Que les autres soient bienvenus au milieu des soldats de la terre.
Aléa posa un regard circulaire sur l'armée de Tuatane. Elle guettait le moindre mouvement. Elle savait que tout se jouait en cet instant. Que si les Tuatanes devaient la rejoindre, il fallait que ce soit dans la même disposition, derrière le même rêve.
« Kaïliana a bien parlé !»
s'écria finalement un Tuatane dans la foule. Il y eut de nombreux murmures, puis une femme s'exclama.
« Qu'il en soit ainsi !»
Tagor sourit. Il regarda Aléa de nouveau et acquiesça.
« Nous sommes les soldats de la terre, Aléa. »
Il s'avança et l'embrassa encore.
« Petite sœur, tu es encore meilleure que le meilleur chef des clans. »
Il disait cela en riant. Il se souvenait du bébé que sa mère avait emporté loin du Cid et ne parvenait pas à croire qu'elle était devenue une jeune fille si étonnante. Si forte déjà, et pourtant encore si jeune.
« Tagor, reprit Aléa, je te présente Mjoln, mon plus vieil ami. Et voici Fingin, le druide qui nous accompagne. »
Tagor les salua.
« Voici Caitlin, qui est cheminante, continua Aléa, et sa présence nous est souvent d'un grand secours. Enfin, voici Erwan Aldaman, le magistèle de Fingin. »
Tagor devina dans la voix d'Aléa que ce dernier tenait dans le cœur de sa sœur une place toute particulière. Il lui fit un signe de tête amical, puis se retourna vers les siens.
« Que les clans se mélangent !»
cria-t-il, et aussitôt, les Tuatanes se dispersèrent dans le camp, partant sans timidité à la rencontre des soldats d'Aléa. Très vite, les barrières tombèrent, et même si tous les Tuatanes ne maîtrisaient pas encore parfaitement le gaélien, ils parvinrent sans peine à se faire comprendre et à se présenter. Ces deux peuples jadis si éloignés brisèrent en un instant les dernières méfiances, car un espoir commun les unissait. Un espoir porté par une jeune fille que tous admiraient déjà. Ainsi, comme Félim s'était uni un jour à la mère de Tagor, les Tuatanes s'ouvrirent au peuple de Gaélia. Les deux mondes se rencontraient enfin. Le rêve d'Aléa était en marche. La jeune fille décida que l'on resterait une journée de plus à cet endroit. Elle voulait laisser aux deux peuples le temps de se découvrir, et surtout, elle avait envie elle-même de passer un peu de temps avec son frère avant que ne reprenne leur longue quête. Lors, elle resta auprès de Tagor tout au long de la journée, apprenant à le connaître, lui posant 1000 questions, lui racontant à son tour son histoire, ses rêves et ses espoirs. Ils étaient si nombreux. Ultan resta un instant immobile, tenant fermement son épée plantée dans la gorge de la créature agonisante. Le sang noir cessa de couler le long de la lame argentée. Le grand guerrier retira alors son arme d'un geste ample et souple, et la bête s'effondra lourdement sur le parterre de sable. Les quelques spectateurs réunis autour de l'arène du palais de Shanka se mirent à applaudir. Leurs cris résonnèrent sous la voûte de pierre. Au-delà du plus profond souterrain du palais, l'arène était plongée dans une obscurité malsaine. Chaque recoin baignait dans l'ombre, et chaque ombre cachait une menace.
L'humidité lourde de l'air faisait suinter les pierres et engloutissait l'espace dans une senteur acide et trouble. Lentement, Ultan se retourna et marcha vers son maître. C'était un guerrier massif, aux épaules larges, à la nuque épaisse. Ses longs cheveux d'un blanc éclatant retombaient sur ses épaules comme une fontaine d'argent. Son épée tendue vers le sol semblait n'être que la prolongation de son bras musclé. Les pics de son armure lui dessinaient comme des os saillants. Son corps semblait ne faire qu'un avec le métal obscur. Derrière lui, la créature fut secouée d'un dernier soubresaut. Transpercée de toutes parts, elle n'était plus qu'un amas de chair dont seules dépassaient quatre cornes pointues. Ultan s'arrêta devant les hautes tribunes de la reine et posa un genou au sol. Il leva les yeux vers la petite loge qui surplombait l'ensemble. Dans l'obscurité, il aperçut un instant les yeux de son maître, furtifs éclairs écarlates qui disparurent aussitôt. Maol Morda avait assisté au combat jusqu'au bout. Ultan savoura l'honneur qu'on lui faisait. Il salua, puis se retira vers la salle d'eau sous les acclamations du public. Quelques instants plus tard, alors qu'il finissait de soigner ses plaies et de laver le sang sur son corps, Ultan vit la silhouette de Maol Morda qui entrait devant lui. Jamais le maître n'était venu jusqu'ici. Le guerrier s'inclina aussitôt et s'appuyant sur le pommeau de son épée, il resta immobile, attendant les premières paroles de son maître. « Tu te bats bien, Ultan. » La voix caverneuse de Maol Morda résonna à travers la pièce, glissant le long des murs comme un souffle de vent.
« Merci, maître. »
Maol Morda hocha la tête. Il s'avança vers son guerrier, tourna autour de lui et s'arrêta devant son épée. Il regarda la large lame encore ensanglantée.
« Et je sais que tu aimerais aller affronter la jeune fille. »
« Je suis à votre service, » répondit simplement Ultan.
« Mais nous en avons déjà parlé. Tu crois pouvoir réussir là où Sultor a échoué. Tu espères ainsi retrouver auprès de moi l'estime que je t'accordais jadis quand j'étais druide et que tu étais mon magistèle, n'est-ce pas ?»«
Vous ai-je jamais déçu ?»«
Tu es mon magistèle, Ultan. » Un magistèle ne déçoit pas. Je sais ce que tu penses. Je sais ce que tu crois, ce que tu sens, ce que tu cherches. J'entends chacune de tes pensées. Tu ne peux pas me décevoir. Tu peux me faillir, c'est tout. Je veux que tu sois à mes côtés le jour où elle viendra ici. Car elle viendra. En attendant, « nous avons beaucoup à faire. »
Le guerrier releva la tête. Il avait attendu si longtemps. Après Sultor, Maol Morda avait choisi Dermot Kal. Tout ce temps, Ultan était resté dans l'ombre. Mais maintenant, il pouvait briller de nouveau. Se dire que le maître l'avait gardé pour la fin.
« Je voudrais affaiblir Alea avant qu'elle ne vienne ici. » Déjà, j'espère que le boucher parviendra à monter la reine contre elle et que cela la rendra plus vulnérable. Mais ce n'est pas tout. Nous avons un nouvel ennemi que je n'attendais pas.
Oui, maître.
Un nouvel ennemi que la petite peste a monté contre nous.
Les soldats qui l'accompagnent?
Non. Ceux-là ne sont une menace pour personne.
Maol Morda avança vers son ancien magistèle. Jamais son visage n'avait été aussi proche. Un visage déformé par le feu qui le hantait. Une figure méconnaissable depuis qu'il avait reçu l'Ahriman.
Les loups,
murmura Maol Morda.
Nous allons devoir nous débarrasser des loups.
La nuit était tombée depuis longtemps, plongeant le flanc de la montagne dans une obscurité presque totale. Alea, assise seule sur un rocher surélevé, écoutait les yeux fermés les bruits discrets de la faune nocturne et du vent dans les arbres. Derrière elle, le camp s'enfonçait dans les ténèbres. Les feux s'éteignaient les uns après les autres. Les dernières silhouettes disparaissaient sous les tentes et les abris de bois. On entendait à peine quelques murmures, quelques ronflements, le craquement du bois sous les flammes mourantes, le chuintement des braises. Aléa pensait à la louve. Imala, la louve blanche. Où était-elle à présent? Elle aurait pu la chercher, partir à sa rencontre dans le monde de Jar, mais il lui semblait que cela n'aurait pas été juste. La louve avait sans doute besoin de solitude à présent. Besoin de s'écarter un peu du monde des verticaux. Cela, Aléa le ressentait. Que les loups aient pu ainsi la rejoindre dans sa quête, qu'il se soit dressé contre les gorgones, était déjà chose incroyable. À présent, la nature devait reprendre ses droits. Les loups devaient retrouver leurs habitudes, leur vie. Aléa avait tellement honte de les avoir ainsi impliqués dans les affaires des hommes. Et pourtant, leur sort n'était-il pas intimement lié, au même titre? N'étaient-ils pas eux aussi, simplement, des occupants de la Gaëlia? Elle soupira. Il n'y avait nul désespoir dans ce soupir. À peine des regrets. Plutôt un soulagement étrange, une recherche de quiétude, l'espace d'un instant. Elle était bien, seule, comme elle l'avait jadis été si souvent. Toutes ces nuits dans les ruelles de Saratea, ces courses solitaires dans la lande, ces soirées à rester cachées, ces journées à fuir. Et maintenant, tout était si différent. Tant de gens avaient les yeux rivés sur elle. Tant d'amis étaient entrés dans sa vie. Et puis ce frère, retrouvé. Au fond, elle n'arrivait pas à savoir si elle était mieux aujourd'hui. Simplement différente. Alors elle entendit un bruit devant elle. Elle se redressa. Mais ce n'était sans doute qu'une martre ou quelques rongeurs qui se faufilaient là. Tirée de ses rêveries par cette agitation nouvelle, Aléa se leva et descendit du rocher. Elle adressa un dernier regard au symbole gravé dans le roc, puis partit vers le campement. Quand elle passa devant le feu éteint où brillaient encore quelques braises, elle salua deux hommes qui discutaient tout bas. Un Toatan et un Galassien. Ils la regardèrent passer et la saluèrent avec respect. Elle sourit. Tout l'avenir était là. Ces deux étrangers qui parlaient jusque tard dans la nuit. Ces deux peuples qui se tendaient enfin la main. Elle rejoignit la grande tente réservée à ses compagnons et à elle-même. Elle passa la porte sans faire de bruit. Chacun de leur côté, ses amis semblaient dormir depuis longtemps, enveloppés dans leurs épaisses couvertures. Elle resta immobile un instant au milieu de la tente, puis elle se dirigea derrière une toile pendue sur le côté droit. Lentement, elle se baissa et vint s'allonger près d'Erwan. Elle glissa sur le côté et passa sous la couverture du magistèle. Il faisait bon, et elle ne parvenait pas à savoir si c'était le Saïman ou son cœur qui battait ainsi au fond d'elle. Elle ferma les yeux. Puis soudain, elle sentit la paume d'Erwan sur son épaule. Cette fois-ci, elle en était sûre. C'était bien son cœur qui battait. La main d'Erwan descendit doucement le long de son bras, puis sur son ventre. Ses doigts étaient si chauds qu'ils semblaient brûler au feu du Saïman. Puis le glissement se fit frôlement. Aléa se tourna délicatement vers le jeune homme et se serra contre lui. Elle passa ses mains dans son dos, lui rendant chaque caresse avec une tendresse décuplée, plongeant ses paumes dans la longue chevelure blonde du garçon. Puis ils firent l'amour en silence, offrant à leur passion la saveur de l'attente, la douceur discrète de la découverte. La nuit accompagna leur première étreinte d'un silence feutré. Ils trouvèrent l'un et l'autre un réconfort inattendu, la douceur oubliée d'une intimité perdue. Et ils restèrent toute la nuit serrés l'un contre l'autre, comme pour retarder le plus longtemps possible l'instant de leur séparation. Ils avaient tant besoin de ne plus se sentir seuls. Le Saïman passa peut-être même entre leurs deux corps, ceux-là, ou une passion si grande qu'elle en avait la force.